France Culture.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la suite. Dès midi à 13h, la romancière Maria Pourchet sera mon invitée. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier dans cette émission pour le Point Culture.
Bonjour à tous. Y a-t-il trop de festivals en France? C'est une question que l'on entend souvent, d'autant plus quand le Centre National de la Musique annonce que 2 festivals sur 3 finissent la saison en déficit, alors que les taux de remplissage dépassent, eux, les 90%. La crise des festivals de musique en France, c'est le dossier du Point Culture du jour. Emmanuel Négrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur les festivals en France. Alors, on recense plus de 2500 festivals de musique et l'enquête du Monde dit que 2 sur 3 ont terminé cette année en déficit, alors même que tous les tickets ou presque sont vendus. Comment expliquez-vous cette précarité?
Cette précarité, elle est liée à une tension très forte entre, d'une part, l'ensemble des dépenses des festivals, de ces festivals de musique, en particulier les festivals de musique actuels. Ces dépenses qui croissent de manière assez considérable, qu'il s'agisse des dépenses artistiques, des dépenses techniques, des dépenses d'assurance maintenant, notamment en lien avec les changements climatiques. Et puis d'autre part, un système de recettes qui au mieux stagne, avec une légère augmentation de la billetterie, mais disons un essoufflement des soutiens traditionnels que sont d'une part les pouvoirs publics, avec des subventions qui stagnent, voire qui baissent dans certaines régions, et puis de l'autre côté, des soutiens de type mécénat, sponsoring, qui n'évoluent pas de manière significative à la hausse pour rattraper ces dépenses dont j'ai indiqué qu'elles étaient en très forte augmentation.
Mais est-ce que c'est un modèle économique qui est propre à la France? Est-ce que ce déficit, on le retrouve aussi dans les festivals de musique en Europe ou ailleurs?
Alors, dans les festivals de musique dans d'autres pays, d'une part, on peut considérer par exemple que pour les festivals de la même nature, au Royaume-Uni, en Hollande, en Belgique, le soutien des pouvoirs publics est moindre. Et d'autre part, la place qu'occupent les grands groupes privés est plus importante. Et ces grands groupes privés répercutent plus facilement, je dirais, des augmentations de billetterie. Pour le même concert en France, d'une tête d'affiche de rock, vous allez payer, par exemple, un billet d'entrée à 55 euros pour la journée. Dans un festival équivalent en Hollande, ça peut être le triple. Mmh. Autrement dit, l'aisance relative plus importante des festivals de ces pays-là, du Royaume-Uni, de la Hollande, se fait sur le dos du consommateur ou du spectateur.
Alors, vous évoquiez justement la plus grande importance du secteur privé dans d'autres pays européens, mais des hommes d'affaires, hein, comme Mathieu Pigas, par exemple, rachètent aussi des festivals de musique. Alors, on sait, hein, ces gens-là, ce ne sont pas des philanthropes. On vient de dire que c'était un écosystème qui était en déficit. Alors, pourquoi, selon vous, ces hommes d'affaires investissent dans les festivals de musique en France?
L'intérêt des grands groupes est en partie un intérêt d'anticipation, c'est-à-dire le pari que le modèle français peut se casser la figure, que donc la très grande diversité et le grand nombre de festivals peut demain se révéler impossible à tenir, et donc avec un plus petit nombre de festivals, là, les grands groupes internationaux, multinationaux, ou qui interviennent sur toute la chaîne de valeur de la musique, pourraient investir et retrouver des bénéfices dans cette activité. Donc c'est d'une certaine manière l'idée selon laquelle, et que défendent beaucoup les grands festivals, qu'il y a trop de festivals en France, qu'il faut donc réguler cette population de festivals, en diminuer le nombre, et donc là, les groupes privés pourraient plus tranquillement faire leurs affaires, mais là, ce serait sans doute sur le dos des spectateurs et des moins fortunés, d'une part, et d'autre part, au détriment des projets culturels de territoire que sont la plupart de ces festivals, qui méritent d'exister tout simplement parce qu'ils incarnent une manière de faire société par la culture.
Bien, merci beaucoup Emmanuel Négrier. Alors, comment expliquer concrètement la fragilité de ces festivals et quelles conséquences pour la programmation artistique? Je vous propose d'écouter l'analyse du directeur du Printemps de Bourges. Boris Vedel, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes le directeur du Printemps de Bourges. La dernière étude du Centre National de la Musique, publiée le 24 juillet, révèle la fragilité du secteur et des festivals de musique encore plus que les autres. Est-ce que vous le constatez à Bourges et comment l'expliquez-vous?
Oui, bien sûr, naturellement, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, c'est le tout premier festival de musique actuelle, a été créé en 1977. 10 ans que j'en assume la direction, et c'est vrai que d'année en année, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile, pour plein de raisons, on va le voir ensemble.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire les raisons principales? Parce qu'on a parfois du mal à comprendre, on nous dit que les festivals sont pleins, c'est parfois difficile d'avoir des tickets pour tel ou tel concert, donc on imagine le monde, et pourtant, les festivals de musique sont pour la plupart en déficit.
Oui, c'est vrai que ça semble paradoxal, puisqu'il y a une augmentation, une croissance des ventes de billets sur le territoire français, mais on va dire partout dans le monde. Et pour autant, beaucoup de festivals se plaignent, effectivement presque tous les festivals se plaignent d'un équilibre économique très précaire. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, je pense. Alors les plus simples, parce que la forêt est grande, et parmi ces arbres, on parle souvent de l'inflation des cachets artistiques, c'est vrai, mais je pense que sincèrement que c'est un arbre qui cache une forêt bien plus grande. Et derrière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'inflation sur les coûts techniques, la production technique d'un festival, c'est-à-dire les matériaux, les fluides, l'énergie, etc. Comme à la maison, j'ai envie de dire, tout augmente quand vous faites vos courses. Et aussi, il y a l'inflation, ce que j'appellerais expérientielle. Alors ça, c'est quoi? C'est effectivement, on n'accueille plus aujourd'hui des festivaliers, des festivalières comme il y a 10 ou 20 ans. Maintenant, il y a un confort quasiment hôtelier qui est requis et naturellement, ça coûte cher. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi une inflation réglementaire. Vous savez qu'on normalise, on norme de plus en plus l'accueil des spectateurs, des spectatrices, c'est tout à fait normal. Mais cela aussi a un coût qui grève les budgets des festivals de plus en plus. Donc quand on accumule tout cela, ça devient un objet de production qui est très très cher et pour autant on ne peut pas multiplier le prix du billet par 2 ou par 3. Alors ça peut se faire dans certains cas, on l'a pu le voir sur les plus grands artistes et c'est là où je finirai un petit peu cet échange, cette analyse, c'est de se dire qu'il y a peut-être aussi deux mondes. Il y a ce monde des super productions, souvent anglo-saxonnes, qui viennent dans les stades. Ce qu'on peut observer également, c'est qu'il y a peut-être aussi deux mondes. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre dans le spectacle depuis quelques années avec l'arrivée des super productions, souvent anglo-saxonnes, très souvent dans des stades. Et finalement, on peut pas imaginer deux secondes que l'accumulation de spectacles comme ceci qui attirent énormément de spectateurs n'ont pas non plus affecté la billetterie des autres spectacles. Quand il y a de plus en plus de stades, ce qu'on appelle faire des stades, le Stade de France ou à Nice ou au Pierre Moreau à Lille, on peut bien imaginer que la billetterie ne va pas se démultiplier avec ces nouveaux spectacles. Donc les festivals qui préexistaient avant ont cette nouvelle concurrence avec laquelle il faut composer. Et effectivement, c'est rude.
Alors, on a évoqué plusieurs raisons. Il y a aussi évidemment la baisse des aides publiques. On en a beaucoup parlé cette année. Est-ce que vous, en tant que Printemps de Bourges, vous avez aussi subi ces baisses-là? Et comment vous arrivez à les répercuter sur votre budget? Est-ce que, par exemple, votre programmation y est soumise? Et donc, est-ce que vous avez changé votre programmation en ayant vu ces subventions publiques descendre?
On voit bien que l'aide publique est on va dire challengé en ce moment. Alors le printemps est peut-être un petit peu différent. C'est vrai qu'il y a un positionnement dans le calendrier, il y a une importance, un événement professionnel très important. Donc l'aide publique est pour l'heure assez préservée. Ça dépend quelle strate. Au niveau de l'État, du ministère de la Culture, ça tient. Après, effectivement, quand on arrive sur les strates territoriales, donc la ville, l'agglomération, le département, la région, là, ça devient compliqué, et voire ça baisse. Donc si ça baisse pour le printemps, j'imagine que ça baisse pour tous les autres.
Merci beaucoup, Boris Vedel.
Et merci, Marie.
Et
merci.
À demain, Marie.
Et à demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, mais il est bientôt 13h, et vous écoutez France Culture.